France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jacques Borel à l'assaut de la gastronomie française. Voilà un homme qui a fait entrer la restauration dans l'ère industrielle. Visionnaire pour les uns, fossoyeur du repas à la française pour les autres, Jacques Borel a bouleversé nos assiettes sans jamais passer derrière les fourneaux. Avec ses self-service rutilants, ses tickets restaurants et son obsession de la productivité, c'est à la louche qu'il a fait avaler aux Français la modernité. Au point d'inspirer le redoutable Tricatel du film L'aile ou la cuisse, caricature d'un monde où la purée en sachet remplace le terroir et où le goût se calcule en part de marché. Mais derrière le parcours de cet entrepreneur gouailleur qui a importé le capitalisme à la fourchette, se cache une véritable révolution sociale et culturelle portée par la période dorée des Trente Glorieuses. Notre invité aujourd'hui, Thierry Marx, cuisinier français, une étoile, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Avril 2011, marché d'Aligre, dans le 12e arrondissement de Paris. Comme chaque jour de la semaine, les commerçants de ce lieu iconique de la gastronomie parisienne installent leurs étals. Fruits et légumes, frais, viande, poisson, fromage. Les vendeurs les plus gouailleurs n'ont aucun mal à attirer les centaines de clients, parmi lesquels on compte presque autant de riverains habitués que de touristes enchantés de se plonger dans l'atmosphère d'un marché parisien réputé bon marché. Mais ce jour-là, les clients et les commerçants assistent à un manège inhabituel. Entre deux stands, au beau milieu de la place et de son agitation, une équipe de télévision s'affaire. Avec ses traditionnels fauteuils rouges, l'émission de France 2 Complément d'enquête prépare l'enregistrement d'une interview. Pour cette émission consacrée à la passion française pour la gastronomie, le journaliste et présentateur Benoît Duquesne ne reçoit pas un grand chef étoilé, mais un homme d'affaires qui a marqué l'histoire de la restauration en France, un certain Jacques Borel.
Voilà, retour sur ce marché d'Aligre avec vous, Jacques Borel. Merci de nous avoir rejoints ici.
Bonjour.
Vous avez inventé les premiers hamburgers en France. Vous avez donc créé ces fameux restaurants d'autoroute. Vous avez inventé, d'une certaine façon, la restauration industrielle et le chèque restaurant. Qui est
Le ticket restaurant.
Vous avez été beaucoup vilipendé, caricaturé.
C'est facile.
Non mais on s'est beaucoup moqué de ça. On disait, on veut être malade, on va chez Jacques Borel, ou c'est pas bon, on va chez Jacques Borel, l'autoroute.
Alors pourquoi vous y allez?
Vous avez souffert de ça? Parce que Coluche,
bah, évidemment que j'ai souffert de ça. Je suis un être humain comme les autres.
Bon, alors le critère quand même, le coût, c'est essentiel. Effectivement, il faut se dire...
Tout est essentiel. La formation du personnel est essentielle. L'amabilité est essentielle. L'accueil est essentiel. Le café chaud est essentiel. Les toilettes propres sont essentielles. Tout est essentiel.
Bon. Vous êtes toujours en colère comme ça ou c'est exceptionnel
toujours.
Parce que...
Toujours. Je suis pas en colère, je suis énergique, c'est pas pareil.
À 84 ans, Jacques Borel, moustache parfaitement taillée et costume impeccablement coupé, n'a rien perdu de son caractère et de son énergie débordante. Si les plus jeunes ignorent tout de lui, toute une partie de la population se souvient de ce personnage haut en couleur, souvent critiqué, voire caricaturé. Car presque à lui tout seul, il est parvenu à bouleverser les habitudes culinaires des Français.
Je veux dire qu'on n'a pas tellement envie de parler quand on a ça devant soi.
Ouais.
Moi, je suis ému par une certaine qualité de cuisine et l'émotion arrive comme peut arriver un vent d'ouest. C'est quelque chose de primaire et avec toute l'intensité des choses primaires, de merveilleux, de séduisant, d'existant. Moi, je me contente de prendre, de renifler, de sentir. Et je pense que c'est une des bases les plus importantes et les plus profondes de la jouissance. Et je jouis.
Au pays de la gastronomie, où l'on disserte de nourriture, on pourrait croire que l'histoire de Jacques Borel débute dans une arrière-cuisine. Que, comme de nombreux restaurateurs, il est issu d'une longue lignée de chefs. Et qu'à l'instar de grands noms de la cuisine française, comme Loiseau, Bocuse, les frères Troisgros, il est un enfant passionné de gastronomie qui grandit le nez dans les fourneaux, bercé par les odeurs et les saveurs de plats mijotés et de sauces rondes et savoureuses. Eh bien, pas du tout. Né en 1927, Jacques Borel est avant tout un homme d'affaires. Et c'est loin des cuisines qu'il est éduqué. Par un père polytechnicien, directeur de la branche française de la grande firme américaine IBM. Pour le fils, pas question d'école hôtelière. C'est sur les bancs de la prestigieuse école de commerce HEC qu'il noircit ses cahiers d'étudiants. Après un stage aux États-Unis, il rejoint la société dirigée par son père et s'affirme très vite comme l'un des meilleurs éléments. Un an seulement après son arrivée, il devient même le meilleur vendeur mondial du géant américain. Un jeune cadre brillant qui n'a que 25 ans quand on lui propose de prendre la direction d'une filiale au Vietnam. Travailleur acharné au caractère de fonceur, il accepte sans hésiter. Et là encore, la méthode Borel fait des merveilles. En moins d'un an, il redresse une branche en difficulté et double les ventes. Et Jacques Borel n'est pas seulement le fils du patron, il est l'avenir de la société. Pour preuve, il est rappelé à Paris pour prendre en main une division stratégique. Il n'a pas 30 ans et son avenir semble déjà tout tracé. Oui, mais voilà. À une époque où les carrières passées au sein d'une même entreprise sont la règle, Jacques Borel, lui, ne compte pas s'éterniser chez IBM. Jeune homme pressé, plein d'énergie, il s'ennuie ferme à son poste et n'a qu'un rêve, monter sa propre affaire. Et puis il y a ce rêve nourri par une intuition persistante. Grâce à l'économie florissante des Trente Glorieuses, la société française est en train de changer. Et ça, c'est synonyme d'opportunité. Il y a un secteur en particulier qui est prêt pour un grand bouleversement, la restauration. Jacques Borel établit un constat. Les établissements traditionnels ne souffrent d'aucune concurrence, alors même que les Français sont prêts à découvrir de nouvelles façons de consommer. Le secteur est porteur et surtout il se prête parfaitement à l'idée que le jeune homme se fait d'un business à conquérir, comme il explique des années plus tard lors d'une interview télévisée.
Curriculum vitae, élève médiocre, HEC, meilleur vendeur dans une société d'informatique. À 30 ans, il se met à son compte et se lance dans un nouveau style de restauration.
Dans la vie, il ne faut pas être intelligent, il faut être pratique, c'est tout à fait différent. Les gens intelligents passent leur temps à avoir des idées. Les gens pas intelligents, quand ils en tiennent une, ils la réalisent.
Non mais, de par votre formation, vous avez appris à calculer la rentabilité, mais est-ce que vous pouvez...
Un peu.
Est-ce que vous pouvez ajouter le critère de qualité?
Sans rire, j'ai appartenu à la maison qui a la meilleure qualité du monde. Alors croyez-moi, en termes de qualité, j'ai appris de quoi il s'agit.
Et vous savez juger de la qualité de la cuisine?
Un peu. J'ai été chef de cuisine pendant 6 semaines.
Le menu idéal, c'est quoi?
Le menu idéal? Il n'y a pas de menu idéal. Ça dépend. Dans ce métier, il faut savoir dans quelles conditions vous êtes. Conditions de temps, conditions de santé, conditions de moyens financiers. Qui paye la note? Qu'est-ce que vous avez à faire dans l'après-midi ou dans la soirée?
C'est donc sûr de ses forces qu'il se lance dans le grand bain. Mais un restaurant en version Jacques Borel n'a rien du troquet du coin. Oh que non. Lui voit les choses en grand, à l'américaine. Il a toujours en tête son séjour de l'autre côté de l'Atlantique, presque 10 ans plus tôt. Il se souvient notamment des établissements Howard Johnson. Avec ses 230 restaurants aux États-Unis, c'est alors l'une des toutes premières chaînes de l'histoire. Une organisation militaire. Partout les mêmes menus, au même prix, avec des enseignes et un agencement aux mêmes couleurs. Et bien voilà l'ambition de Jacques Borel. Alors sa décision est prise, il présente sa démission d'IBM et se lance dans l'aventure. En juillet 57, avec sa femme Christiane, qui devient sa première collaboratrice, il ouvre l'Auberge Express. Ce sera son galop d'essai. Installé au 124 rue de la Boétie, à moins de 30 mètres des Champs-Élysées, l'établissement compte attirer les clients en leur proposant une offre bon marché, simple, avec une quantité réduite de plats et surtout un service rapide. Une offre innovante pour les milliers de travailleurs du quartier qui ne souhaitent plus passer une heure à table durant leur pause déjeuner. Jacques Borel ne laisse rien au hasard. Il sait par exemple que la majorité de ses clients arrivent entre 12h07 et 13h23, de vrais horaires SNCF. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus efficace, dans ce créneau pour le moins précis. Alors il étudie dans les moindres détails l'activité de ses employés. Il équipe ses serveuses de podomètres et analyse leur circuit en salle. Quand il se rend compte qu'elles parcourent près de 15 km chaque jour, il enrage. Je ne les paye pas à marcher, mais à travailler. Et quand elles marchent, elles ne travaillent pas. Étrange considération. Faut-il qu'elles fassent voler les plats de la cuisine jusqu'à la salle de restauration? Toujours est-il que malgré cette organisation militaire, les premiers résultats de l'Auberge Express sont loin d'atteindre les objectifs fixés par l'ambitieux patron. quelques mois après son lancement. En effet, l'affaire risque déjà de couler. Alors qu'il lui reste seulement 10 jours de trésorerie devant lui, Jacques Borel réunit ses employés. Ils se mettent autour d'une table et il annonce. Il faut trouver comment faire venir plus de clients, sinon l'aventure se termine ici. C'est alors qu'il a une idée. Vendre des tickets repas utilisables dans son établissement. Les tickets resto, que nous connaissons tous, sont nés.
J'ai créé le ticket restaurant comme un moyen de marketing. Il fallait impérativement, parce que j'avais très peu d'argent, que 3 mois après le démarrage de l'Auberge Express près des Champs-Élysées, il me fallait 100 clients de plus par jour. Et la seule façon d'avoir des clients, c'était d'aller prospecter les entreprises autour avec des bouts de papier. Je n'avais même pas les moyens de les imprimer. J'avais pris des vieux rouleaux de tickets de cinéma qui, suivant la couleur, le jaune était 2 francs, le vert était 3 francs, le rouge était 4 francs et le violet était 5 francs.
L'idée fonctionne à merveille et le succès est immédiat. Très vite, des centaines de travailleurs des entreprises du quartier affluent devant les portes de l'Auberge Express. La fréquentation explose et Borel parvient à atteindre ses objectifs. Durant les coups de feu, le restaurant parvient ainsi à servir jusqu'à 12 clients par minute, soit un toutes les 5 secondes. Du jamais vu. Jacques Borel jubile. Son pari est réussi. Mais à tout juste 30 ans, le jeune homme ne compte pas en rester là. Très vite, il applique son modèle à d'autres établissements. Et encore une fois, c'est une réussite. Pour garder le contrôle sur les coûts, il crée la toute première centrale d'achat de France. L'idée, là encore, est simple. Proposer une plateforme unique où tous les restaurants peuvent commander des produits standardisés, prêts à l'utilisation et, évidemment, toujours au meilleur prix. Au même moment, Borel fonde la Générale de Restauration. Avec cette nouvelle entreprise, il se lance dans la restauration collective. Après le service aux clients unique, place maintenant aux cantines d'entreprise, collectivités, collèges et lycées. Il n'est pas le seul sur ce secteur. Mais sur un marché traditionnellement contrôlé par les syndicats et les corporations, la méthode Borel est encore une fois un succès. Au début des années 60, plus rien ne semble donc pouvoir arrêter celui qui est en train de transformer les habitudes culinaires des Français. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jacques Borel.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Déjà poids lourd du secteur de la restauration, Borel n'en a pas fini avec la transformation des habitudes des Français. Il n'en est même qu'au début. Après l'expérience de l'Auberge Express, les tickets resto et la restauration collective, il compte maintenant apporter un tout nouveau mode de consommation, encore une fois tout droit venu des États-Unis, le fast-food. Un concept encore inconnu de la majorité des Français.
Pardon madame, savez-vous ce que c'est un fast-food ?
Non.
Non.
Qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que vous savez ce que c'est un fast-food ?
Un
fast-food.
C'est de l'anglais ça ?
Oui.
Fast-food, je sais pas.
Eh ?
Un fast-food, savez-vous ce que c'est ?
Je suis pas d'ici moi alors.
Pardon monsieur, savez-vous ce qu'est un fast-food ?
C'est pour manger rapidement.
Un endroit où on sert des espèces de brioches avec dedans du steak haché.
Une nourriture rapide.
Pardon ?
Savez-vous ce qu'est un fast-food ?
Non.
Alors là, je vois pas. Je vois pas.
Comme quoi, importer le fast-food en France est un pari osé, loin d'être gagné d'avance. Au pays de la gastronomie, des étoilés et des bistrots de quartier, le pari est risqué. Mais Jacques Borel ne part pas de zéro. Il décide de s'associer avec la chaîne Wimpy, déjà bien implantée outre-Atlantique. Un décor à l'américaine avec couleurs vives, bidon de moutarde de ketchup sur les tables et jukebox dans la salle. Pour la carte, pas besoin de proposer un menu à rallonge. Seuls quelques produits sont vendus, hamburgers, frites et milkshakes. Unique concession faite à la tradition culinaire française, la possibilité de commander un burger à cheval, autrement dit avec un œuf au plat sur le steak haché. Comme pour ses autres établissements, le patron met en place une organisation militaire et millimétrée. Par exemple, les frites et hamburgers ne sont pas cuits à la commande. Une perte de temps. Laissés au chaud en attendant d'être servis, ils sont jetés toutes les 7 minutes s'ils ne sont pas vendus. Face à cette nouvelle aventure, les sceptiques sont nombreux. À l'image de Ray Kroc, le dirigeant du géant en devenir McDonald's. Quand ils se croisent avec Borel lors d'une convention aux États-Unis, l'Américain se moque et affirme que les Français ne mangeront jamais de hamburger. Mais persuadé qu'ils sont prêts à l'adopter, Borel ne se laisse pas démonter et lui répond « Formidable, gardez cette idée longtemps en tête, comme ça vous me foutrez la paix sur le marché français. » Parce que Jacques Borel est sûr de lui et de son flair, qui ne l'a pour l'instant jamais trahi, c'est vrai. Les Trente Glorieuses sont en train de transformer la société française. Il sent qu'il y a désormais de la place aux côtés de la restauration traditionnelle pour de nouveaux établissements, adaptés aux familles pressées qui vivent en ville. Des familles qui consacrent de moins en moins de temps au repas et qui sont prêtes à se rendre dans les restaurants modernes où l'on peut manger rapidement, pour pas cher et à toute heure, bref, à l'américaine. Borel a compris que la France, comme d'autres pays européens, se jette la tête la première dans tout ce qui vient des États-Unis, pour le meilleur parfois, pour le pire souvent. Et puis en France, la femme n'est plus cantonnée au foyer, et c'est une carte que Borel compte bien utiliser. Il explique ici, avec le phrasé qui le caractérise.
Savez-vous ce que c'est qu'un hamburger ? Pourquoi ça existe, le hamburger ? Parce que c'est un sous-produit du travail des femmes. Ah !
Mais encore.
Je vous rappelle que dans un bœuf, 60% du bœuf, ce sont des morceaux qu'il faut cuire pendant 3 heures ou pendant 4 heures, sinon ils sont durs comme cette... À partir du moment où les femmes travaillent, elles n'ont plus les 3 heures de temps pour cuire cette viande. Alors qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez l'acheter ? Sûrement pas. Vous allez la hacher.
Le premier Wimpy de France ouvre ses portes le 31 mai 1961. Et le succès est immédiat. Chaque jour, des centaines de personnes se pressent devant les portes de l'établissement installé rue du 4 septembre dans le 2e arrondissement de Paris. Les employés enchaînent les heures supplémentaires pour faire face à une file de clients qui ne désemplit pas, même à minuit, à quelques minutes de la fermeture. Alors peu importe les critiques violentes qui commencent à émerger contre celui qui est accusé d'importer la malbouffe en France, cause toujours. Lorsque le quotidien François le qualifie d'ennemi public numéro 1, Borel jubile et se délecte de cette publicité gratuite qui attire les foules dans son fast-food. En bon comptable, il s'intéresse avant tout aux chiffres. Et ceux de son Wimpy sont excellents. Quand un restaurant traditionnel peut espérer 3 ou 4 rotations par siège et par jour, lui n'en compte pas moins de 27. Après le restaurant de la rue du 4 septembre, Jacques Borel ouvre 15 autres adresses à Paris et 5 en province. personne n'y croyait. Mais les Français semblent avoir adopté le hamburger, comme il dit. Pourtant, l'expérience de ce premier fast-food version française fait long feu. Car s'il compte poursuivre l'expansion à travers le pays, le caractériel Jacques Borel ne parvient pas à se mettre d'accord avec la maison mère, qui refuse alors de lui laisser toute la marge de manœuvre qu'il exige. Hors de question de s'embarrasser avec d'interminables et coûteuses négociations. À la fin des années 60, il jette l'éponge et ses restaurants de hamburgers ferment les uns après les autres. Ce n'est qu'en 72 que Ray Kroc, le patron de McDonald's, se décide à reprendre le flambeau et ouvre son premier restaurant en France. Jacques Borel, lui, est passé à autre chose. L'infatigable patron de la société JBI pour Jacques Borel International a déjà en tête son prochain objectif.
Le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, qui est la première autoroute française à péage. Il convient de noter que sa construction, qui a duré 5 ans, a coûté 22 milliards d'anciens francs. Désormais, grâce à ses 63 km d'autoroute, on mettra pour ce parcours moitié moins de temps. Gain appréciable pour les vacanciers, pressés d'arriver à la mer. Et ils le sont toujours.
Ah, les autoroutes. Par ici la bonne affaire. Toujours à l'affût des évolutions de la société française et des opportunités qui en découlent, Borel n'est évidemment pas passé à côté de la démocratisation de la voiture dans l'Hexagone. En 1960, il s'en est vendu 3 millions. En cette fin de décennie, on frôle les 10 millions par an. De chevaux, Dauphine, Renault 4 ou Peugeot 403, elles sont toujours plus nombreuses à sillonner les routes de France. Avec elles, ce sont aussi les infrastructures qui se développent à toute vitesse. Si le charme de la Nationale 7 et de ses petits restaurants de bord de route attire toujours certains Parisiens dans leur migration estivale vers la Côte d'Azur, c'est aujourd'hui l'autoroute qui voit défiler le plus grand nombre de véhicules. Et ce n'est que le début. Borel sait très bien que d'ici quelques années, elles s'imposeront comme des axes majeurs où se croiseront vacanciers, routiers, VRP. Et s'en sera terminé de la poésie de nos restos routiers sur les nationales, avec nappes à carreaux, les patrons qui font la cuisine et qui servent. Maintenant, c'est place à l'efficacité, à la rapidité, matrice de nos sociétés modernes. Et surtout, là où certains ne voient que d'interminables lignes droites qui sillonnent la France, les autoroutes, Jacques Borel détecte, lui, un terrain vierge où tout est à faire. Car ces autoroutes des années 60 ne sont jalonnées que de quelques stations essence, avec un préfabriqué pour les employés, une machine à café et au mieux, une offre de restauration réduite. Le plus souvent, c'est un simple parking avec toilettes attenantes, où les voyageurs s'arrêtent manger un sandwich préparé avant de prendre la route. Alors, bien décidé à aller chercher les consommateurs là où ils se trouvent, l'insatiable patron et empereur de la cuisine de masse veut se lancer dans la transformation des autoroutes françaises. Si le défi logistique ne lui fait pas peur, Borel s'interroge quand même sur le moyen d'atteindre le maximum de consommateurs. Il ne veut pas se contenter de restaurants de bord de route, où seulement la moitié des voyageurs peuvent s'arrêter, non. Il ne veut pas non plus en ouvrir un de chaque côté, trop compliqué, trop coûteux. Alors il cherche la bonne idée. Et cette fois, ce n'est pas aux États-Unis qu'il la trouve, mais de l'autre côté des Alpes. En Italie, en effet, on trouve des restaurants installés sur des ponts qui enjambent les voies. Mais là, voilà la solution pour atteindre les automobilistes circulant dans les deux sens. Jacques Borel négocie alors avec les concessionnaires d'autoroutes et en 69, il ouvre son premier établissement sur un pont surplombant l'autoroute A6 à Venoy, près d'Auxerre. D'autres suivent rapidement, on les appelle les restoroutes.
265 km au sud de Lyon, 38 km au nord de Marseille, telle est la position géographique de l'aire de service de l'Anson de Provence, sur laquelle s'élève désormais le premier pont restaurant d'autoroute de la région. Satisfaire l'appétit des usagers en fonction du temps dont ils disposent, et puis, il faut bien le dire, des moyens budgétaires qui leur sont propres. De la bouillabaisse au sandwich, en quelque sorte.
Bonne route depuis Paris, madame ?
Oui, monsieur, très bonne, avec du brouillard, un peu de verglas, mais bonne route.
Est-ce que vous êtes une habituée de l'autoroute ? Vous
Oui,
êtes...
beaucoup. Parce que nous faisons très souvent le trajet, nous avons une maison à Port-Grimaud et nous y allons régulièrement.
Eh bien, vous allez inaugurer un nouvel établissement, le premier pont autoroutier de la région.
Ce qui m'enchante, parce qu'on n'avait aucun endroit pour déjeuner entre assez loin, près de Vienne et puis presque l'arrivée.
Et lorsque vous déjeunez dans, un pont autoroutier, est-ce que vous choisissez la gastronomie ou le service express, disons ?
Express. Mais quelque chose de bon quand même, parce qu'avec les enfants, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
Si de rares concurrents se placent également sur ce marché prometteur, le géant de la cuisine industrielle est bien la figure de proue de ces nouveaux établissements où l'on déjeune en regardant défiler les voitures. Passionnant. Modestement baptisé Jacques Borel, ses restaurants sont un succès immédiat. La carte, qui compte une dizaine de plats, est vite réduite aux 6 best-sellers. Pas de service à table, à la place on mise sur les premiers self-service. Un moyen d'aller vite et de répondre aux exigences de rentabilité imposées par un Borel qui a déjà calculé qu'un automobiliste qui s'arrête dans ses établissements juste pour aller aux toilettes lui coûte 11 centimes. L'eau, l'électricité, le ménage, tout ça. Ainsi, les restos-routes Jacques Borel servent jusqu'à 6000 clients par jour. Pour les grandes affluences, il embauche les jeunes paysans du coin et il parvient, durant un week-end de chasse et croisée, à contenter plus de 14 000 personnes en une seule journée. Au début de la décennie 70, Jacques Borel semble inarrêtable. En plus de l'exploration de marchés étrangers, il se diversifie dans les restaurants de centres commerciaux et vise une expansion dans le domaine de l'hôtellerie, avec la création d'une chaîne qui, elle aussi, porte son nom. Après un lobbyisme intense et des milliers de rendez-vous à Matignon, il parvient également à faire exonérer d'impôts ses tickets restaurants qui se généralisent partout en France. L'ancien vendeur star de IBM, dont le nom s'affiche en grandes lettres sur toutes les autoroutes du pays, est omniprésent. Il est parvenu à s'immiscer dans le quotidien de millions de Français. Avec son tempérament volcanique et son verbe haut, Borel, qui affirme qu'il ne veut pas qu'on l'aime, mais qu'on lui obéisse, est même devenu un patron star que les journalistes aiment suivre dans son jet privé ou dans ses luxueux bureaux parisiens.
Jacques Borel, 48 ans, marié, 3 enfants. Nous l'avons suivi pendant une journée de son bureau au 27e étage de la Tour Maine-Montparnasse à son hôtel de Nantes où il dirigeait un séminaire de direction. Pas une minute de répit, mais il a répondu à toutes nos questions, même les moins agréables.
La pire des choses dans la vie, c'est qu'on ne parle pas de vous. C'est la pire de toutes. Que nous soyons très critiqués, très controversés. En fait, Borel, vous savez, vous y trompez pas. Il ne laisse pas insensible. On adore ou on déteste.
Jacques Borel, c'est quoi aujourd'hui sur le plan financier ?
Sur le plan financier, c'est une capitalisation boursière de 820 millions. C'est un chiffre d'affaires qui va dépasser le milliard cette année. C'est un peu plus de 20 millions de bénéfices nets. C'est 775 restaurants, tous avec leur cuisine à eux. Avec 775 chefs de cuisine, c'est aujourd'hui 10 hôtels, demain 25, à la fin de l'année prochaine, 45 hôtels avec 7000 chambres. Bon, tous 4 étoiles.
Au restaurant, à la cantine du bureau, ou du lycée, à l'hôtel, ou sur l'autoroute, Jacques Borel est partout. On en frôle presque la digestion. Alors, de nombreuses voix commencent à se lever contre celui qui est devenu le visage de l'industrialisation de la sacro-sainte cuisine française. L'uniformisation de la nourriture, c'est la faute de Borel. La généralisation de la malbouffe, c'est encore lui. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ces établissements étaient synonymes de modernité. Eh bien, ils sont désormais associés à la médiocrité. Mais l'industriel pense en espèces sonnantes et trébuchantes, comme un tiroir caisse à la place du cerveau. Oui, il s'en tient aux chiffres, et ils sont bons. Il n'y a que ça qui compte. Pour faire taire les sceptiques, il commande un sondage auprès d'un institut spécialisé afin de vérifier le taux de satisfaction auprès des consommateurs. Le résultat est sans appel. 92% de ses clients sont heureux chez lui. Le patron en conclut que si en public on n'ose pas dire qu'on aime Borel, en réalité on le plébiscite. Mais quoi qu'il en soit, il reste sous le feu des critiques, comme lorsqu'il est moqué par Coluche avec sa reprise parodique de la chanson de Jacques Brel, « Ce plat pays qui est le mien », qui sous sa plume devient « Ce plat pourri qui est le mien ». Première estocade. Mais le coup de grâce intervient en 76, quand le film « L'aile ou la cuisse » sort au cinéma. On y découvre encore une fois Coluche, qui campe le fils d'un Louis de Funès, directeur du fameux guide Duchemin, défenseur de la gastronomie française, en guerre contre un certain Jacques Tricatel, industriel et figure de la malbouffe.
À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger, Tricatel. Merci pour lui. Merci. À droite, vous allez découvrir dans quelques secondes le directeur du guide qui porte d'ailleurs son nom, l'écrivain célèbre, le critique redouté, Charles Duchemin.
du chemin ne viendra pas parce qu'il n'existe plus. Enfin, ce qu'il représente n'existe plus. Une cuisine compliquée, pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement. Et c'est pas du chemin qui viendra me prouver le contraire.
L'image de Jacques Borel est définitivement écornée auprès du grand public. C'est un coup dur pour lui, alors même que son empire vacille. En cause, sa tentative d'incursion dans le monde de l'hôtellerie. Ses projets sont onéreux et ses créanciers commencent à s'inquiéter. Alors pour tenter de redresser la barre, il rachète le groupe d'hôtels de luxe Sofitel en 1975. Mais la mayonnaise ne prend pas et il ne parvient pas à se renouveler. Patron tyrannique, il exige de ses cadres d'être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Délicat comme un taureau sous amphétamine, il n'hésite pas à sanctionner leur rapport d'un nul à refaire, écrit au feutre rouge. Des méthodes qui commencent à poser question. Si on lui passait tout lorsque son groupe générait 1 milliard de francs de chiffre d'affaires, ce n'est plus le cas quand il engrange des pertes à plusieurs dizaines de millions. Et ce qui devait arriver arrive. En 77, Jacques Borel est lâché de toutes parts. Ni les banques, ni ses partenaires les plus fidèles ne sont prêts à le soutenir. En mai, le conseil d'administration décide de mettre fin à ses fonctions. Son nom est effacé du groupe et fusionne quelques années plus tard avec la chaîne Novotel pour devenir le géant français qu'on connaît si bien, Accor. Jacques Borel a tout perdu. Il quitte la France et tente de nouvelles aventures en Amérique du Sud où il exporte les tickets restaurants, puis aux États-Unis. De retour au pays dans les années 80, il se reconvertit en consultant. Âgé de 99 ans aujourd'hui, Jacques Borel est à la retraite et retiré des affaires.
Coup de théâtre. Jacques Borel, le Napoléon de l'hôtellerie et de la restauration, l'homme qui a mis la France à l'heure du Wimpy, quitte la présidence de son entreprise. À l'annonce de cette nouvelle surprenante, des milliers de Parisiens sont frappés de stupeur. Le chagrin se lit sur leur visage. Jacques Borel, l'homme à qui l'on doit les mille et un délices de nos restaurants d'entreprise, le Mozart de nos cantines scolaires, les estomacs français se souviendront longtemps de lui sans aigreur.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Jacques Borel, dont nous parlons avec notre invité Thierry Marx. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cuisinier, bien sûr, cuisinier connu, et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors déjà, est-ce que vous avez rencontré Borel ?
J'ai rencontré Borel et j'ai rencontré un de ses proches collaborateurs avec qui j'avais travaillé dans une association qui s'appelle les Escoffiers. Et donc le parcours de Jacques Borel m'a toujours bluffé. Toujours bluffé parce que c'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il a compris que ces métiers de l'alimentation et de la restauration allaient s'industrialiser. Et il a pris, il a saisi l'opportunité de cette industrialisation. Et ce qui m'a navré quand j'ai étudié Jacques Borel, un, de lui reconnaître tout ce talent de savoir industrialiser quelque chose, et en même temps, une profession qui, elle, souhaitait défendre la gastronomie française, le savoir-faire français et l'excellence, qui n'a pas su créer un contre-pied à cela. Et on en souffre encore aujourd'hui. Donc, la mécanique de Jacques Borel, elle est encore vraiment d'actualité. On a une profession, les professions de la restauration, qui se sont industrialisées. La preuve en est, vous avez en gros 1 000-1 500 établissements où c'est plutôt une cuisine d'auteur, et 175 000 établissements où là, on n'est quasiment plus dans le fait maison. Donc, vous voyez que cette industrialisation de la cuisine, elle est inquiétante, parce que c'est une perte de culture, une perte de repères dans la culture du vivant. Et ça, Jacques Borel, lui, il a fait ce qu'il devait faire en tant qu'élève d'HEC, élève brillant, entrepreneur brillant. Il comprend qu'il y a une faille qui a été compris beaucoup plus tard avec la digitalisation de nos métiers, etc. Mais Lui, il comprend ça, il surfe là-dessus, il est brillant, et il constate une chose, c'est que à l'époque où Jacques Borel crée ce type de restauration, il s'aperçoit que les gens, à déjeuner, mangent pour une heure du salaire minimum. Donc il va tout bâtir sur cette heure du salaire minimum.
C'est ce postulat, hein.
Et finalement, ça fonctionne. Et après, on peut lui faire un procès en lui disant, pas beau, pas bien, c'est un tort de lui faire un procès, c'est un excellent chef d'entreprise, mais par contre, il a quand même permis de sauver toute une branche du fait maison et du petit bistrot en créant ces tickets-restaurants qui sont devenus titres-restaurants. Parce qu'ils sont utilisés encore aujourd'hui, et l'État, encore aujourd'hui, ne sait pas protéger ces titres-restaurants, or que lui les a créés, et ça protégeait quand même le savoir-faire de certains bistrots de campagne et des bistrots de quartier.
C'est un coup de génie, le ticket-restaurant, c'est vraiment un coup de génie.
C'est un coup de génie parce qu'il permet d'ailleurs, aujourd'hui, ces titres-restaurants, ces tickets-restaurants, ont été chapardés par la grande distribution, qui, elle, bénéficie d'un avantage fiscal au niveau de la TVA, et vend des sandwichs et des plats cuisinés industriels, qui sont quand même pas très bons. Donc n'en voulons pas à Jacques Borel d'avoir été un chef d'entreprise brillantissime, avec un relief planétaire, et puis il a ouvert la voie à une possibilité française de s'imposer dans les fast-foods, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'était une réponse, parce que ça ne désemplissait pas, et on a laissé la place à d'autres qui ont pris, effectivement, ce qui était l'emplacement vide.
Alors, intéressante cette histoire, Jacques Borel, parce qu'elle a deux dimensions. Il y a la dimension culturelle, hein, de la gastronomie, et la dimension du modèle économique de la restauration, dont on va parler après. Donc, question toute simple, avez-vous déjà déjeuné ou dîné dans un restaurant?
Mais bien sûr, parce que...
Et comment avez-vous trouvé ce que vous avez mangé?
Mais mal, pas bon, pas bien. Et quand je m'arrête encore, je ne mange plus dans les restaurants d'autoroute, bien souvent, mais en tout cas, je vois que ça répond à un côté pratique, presque à une attractivité. Je vois des gens qui sortent avec des trucs pas bons, qu'ils ont payé très cher, mais le fait qui se sentent prisonniers, comme si en faisant 200 km, vous alliez mourir de faim. Non, il n'y avait pas de risque. Mais il comprend l'approche pratique des choses. Et ça, aujourd'hui, ben, nous le payons très cher, parce qu'on n'a toujours pas mis au point une loi cadre qui serait voté à l'Assemblée nationale sur le fait maison, qui aurait permis à cette époque déjà de contrecarrer un peu cette industrialisation de l'alimentation.
Alors il y avait une petite séquence nostalgie dans le récit qu'on vient de proposer. Je parlais des restaurants routiers le long des nationales où on s'arrêtait avec... C'était chaleureux, il y avait de la poésie là-dedans. Est-ce que vous en regrettez cette... Parce que
bien sûr, il y avait de la poésie, il y avait du lien social, il y avait tout ce qui émane de ces cafés. Quand vous étiez à côté d'un ouvrier agricole ou à côté d'un ouvrier, d'un routier, mais en même temps d'un notaire de province qui passait par là, tout ça, c'était du rapprochement social. Aujourd'hui, ce qui me navre du fait de ne pas avoir su protéger les restaurants qui font du fait maison, aujourd'hui, entre Bergerac et Périgueux, vous retrouvez avec plus de fast-food et de distributeurs de pizzas automatiques que de petits cafés. Or, si nous avions fait une TVA, par exemple, aménagée pour ceux qui transforment des produits de l'agriculture française et qui les proposent à un prix intéressant, eh bien, nous aurions réussi quelque chose à contrecarrer cette industrie. Parce que l'industrie, elle n'a pas d'état d'âme. Jacques Borel est un industriel, il n'a pas d'état d'âme. La gastronomie française, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'EBITDA, le résultat de l'entreprise. Or que, quand vous touchez à l'alimentation, vous touchez au vivant, et vous touchez à la culture, au patrimoine du vivant, à son agriculture, etc. Donc, attention, si on veut encore contrecarrer ce type d'industrialisation, il va falloir faire voter une loi par nos députés et nos sénateurs sur le fait maison, ce qui protégera la culture et la diversité française. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas.
Vous les sentez disponibles pour ça ?
Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude de la perte du repère et de cette identité française. Pourquoi je dis ça? Le tourisme, c'est 8% du PIB français. L'attractivité d'un pays, et notamment de la France, c'est son relief, son littoral, son cœur, sa diversité et sa gastronomie. Et on voit que le nombre de nuitées diminue. On voit bien que le tourisme augmente, on traverse le pays, mais on y dort moins longtemps et on y passe moins de temps. Donc on y passe moins de temps parce qu'on manque de repères. Prenez un exemple, entre Bordeaux et le Verdon, eh bien, trouvez un bon petit bistrot, agréable à manger, agréable à payer, où on fait du fait maison, où vous allez trouver une culture et une agriculture, eh bien, vous ne l'avez plus, et c'est au détriment d'une industrialisation.
Et il y a aussi un autre mot, mais qui vaut pour la mondialisation en général, pas forcément que pour la restauration, c'est l'uniformisation.
Bien sûr.
Ça va un problème aussi, ça.
Mais le lissage de l'identité. Ouais. Alors, il faut faire attention avec le mot identité, je ne suis pas sociologue, et puis il y a aussi la perte du repère du mangeur. Quand on s'arrêtait, que c'était bon, on participait à quelque chose d'actif. Aujourd'hui, on est consommateur, l'air d'autoroute, le fast-food, c'est vite fait, etc. Mais dès lors que vous proposez autre chose, ce qui m'arrive dans certains de mes établissements, je propose autre chose, je propose un ticket d'entrée à 25 euros. On fait 600 couverts par jour. Et en faisant du fait maison, avec moins d'offres, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, tout en fait maison, mais ça marche.
Ça suffit d'ailleurs.
Et ça suffit.
Parce que trop de choix, tu le choix.
Bien sûr.
On sait pas quoi
mais ça veut dire qu'il y a une alternative à tout ce qu'on a appelé les fast-food. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, le fast-food réponde à un besoin et que ce fast-food, c'est aujourd'hui 19 milliards de revenus. Et on est le pays qui défendait la gastronomie où il y a le plus de fast-food en Europe.
France Inter. Affaires sensibles.
Thierry Marx, vous m'en voudrez pas. Je vais au restaurant, je paye un plat 34 euros. Alors c'est pas forcément un restaurant étoilé, un bon resto quand même. Je trouve ça cher. Qu'est-ce que vous répondez?
C'est-à-dire que si vous payez 34 euros, il reste 1,02 € au restaurateur. Aujourd'hui, les charges sur un outil de production, finalement, il faut sortir du fantasme. Qu'est-ce que c'est qu'un restaurant? C'est un outil de production dans lequel vous devez transformer des produits avec du personnel. Aujourd'hui, les charges sont tellement élevées, l'inflation, bien sûr, l'énergie, bien sûr, les coûts, et c'est normal d'augmenter le personnel. Aujourd'hui, quand vous faites ne serait-ce qu'un menu à 22 euros, il reste au restaurateur qui fait du fait maison, je l'entends, 40 centimes. Donc ça veut dire qu'on a poussé avec ces charges les restaurateurs à un moment donné de jeter l'éponge et de se dire bon, ben, j'ai intérêt à faire transformer ailleurs, donc je vais m'industrialiser, moins de personnel, moins de coûts matières, moins de consommation d'énergie, et je vais essayer de refaire une trésorerie. Sauf que depuis une dizaine d'années, on ne refait plus de trésorerie dans ces métiers, et donc ça meurt. Aujourd'hui, on ferme 25 restaurants par jour, ça c'est les chiffres du tribunal de commerce, mais vous en ouvrez 20. Mais les 20 qui ouvrent sont plutôt des chaînes, des concepts, etc., plutôt que des restaurations dans lesquelles on pourrait protéger la diversité de notre gastronomie française.
Et ça, c'est spécifique aux grandes villes ?
C'est pas spécifique aux grandes villes. La première des petites morts de la restauration et de la dégastronomisation est passée par la ruralité. Aujourd'hui, un bistrot de campagne, eh bien, il s'en sort plus, donc il arrive même pas à vendre son établissement. Bien souvent, il est obligé de le vendre au prix de l'immobilier local, or qu'il y avait fait des investissements. Donc aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude d'avoir à protéger ceux qui font et qui défendent l'idée du fait maison. Mais pas simplement le restaurateur. C'est vrai pour le charcutier, oui. C'est vrai pour le boulanger, c'est vrai pour le pâtissier.
Mais alors, si effectivement la marge est faible, on peut se rattraper éventuellement sur la quantité.
Sur le volume.
Sur le volume. Donc ça privilégie quand même les restaurants de la Côte d'Azur, les restaurants qui peuvent, en une saison, faire presque une année, quoi.
Alors, c'est même plus vrai, ça. C'est-à-dire que celui qui va choisir de faire du chiffre en une saison, eh bien, il ne va pas forcément entrer dans le fait maison, parce que c'est le temps est trop court. Et encore une fois, défendre le fait maison, c'est aussi défendre toute une filière de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Je me souviens d'un chef qui nous disait toujours, dans mon apprentissage, vous êtes responsable de vos clients jusqu'aux toilettes. Et c'était étonnant, mais on a oublié ça, et on a oublié que de protéger ce patrimoine culturel de la gastronomie, on protégeait le relief et l'identité de la France. Mmh. Et ça fait maintenant une France un peu avec une culture hydroponique, comme ça, qui est posée sur pas grand-chose. Or que les racines d'un terroir, les racines d'un département, d'une région, elles s'appuyaient beaucoup sur cette capacité à transmettre le patrimoine par l'assiette.
Alors encore une question très, très terre-à-terre, hein. On dit souvent, mais les restaurateurs, ils se rattrapent sur le vin. C'est très cher le vin qu'on sert au restaurant, c'est vrai ou pas ?
Alors oui, probablement, c'était ouais. vrai. Il y avait cette fameuse, ce fameux coefficient stupide du 3.5. J'achète une bouteille et je multiplie par 3.5 pour m'en sortir, payer mes charges et ça. Aujourd'hui, les jeunes sommeliers qui ont beaucoup de talent essayent de tordre le cou à ça et plutôt de travailler à la marge en disant je fais une petite marge, mais j'en vends plus souvent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire dans beaucoup d'établissements parce que le vin a beaucoup de mal à se vendre. On voit aussi beaucoup de menus sans alcool et c'est beaucoup plus difficile pour le restaurateur de faire de la marge. Donc aujourd'hui, il faut trouver une autre façon de vendre du vin et de faire connaître nos terroirs et nos territoires viticoles.
Alors je pense à l'émission Top Chef à laquelle vous avez participé pendant 5 ans, je crois. Oui. C'est quand même une émission qui met à l'honneur la cuisine, la vraie cuisine. Est-ce que c'est un message plutôt positif qui était envoyé ?
Alors c'est un message positif, hein, Top Chef. Moi j'ai participé, je regarde toujours l'émission. Elle a donné une très jolie attractivité à nos métiers. Elle montre qu'avec un peu de persévérance, de talent, de détermination, eh bien on arrive à trouver sa place dans la cuisine d'auteur. Moi ce que je défends beaucoup en France, c'est la cuisine d'auteur. Mais en même temps, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où il nous manque quand même 200 000 postes dans la profession. Donc tous ces jeunes chefs, évidemment, c'est formidable. C'est formidable qu'ils créent de l'attractivité, mais il faut aussi travailler beaucoup sur l'attractivité métier pour des gens qui sont éloignés un petit peu d'un projet métier et les accompagner à rester dans nos métiers. Aujourd'hui, Top Chef produit des chefs, c'est comme son nom l'indique, et c'est très très bien comme ça, et plutôt des chefs et chefs auteurs. Mais ça, il faut le défendre vraiment, parce qu'on a besoin de chefs, mais on a besoin de gens pour lesquels nos métiers font encore rêver.
Alors, résumons, hein, parce qu'on a dit plusieurs choses sur comment redonner une bonne santé à la restauration française. Les principaux points, on les résume selon vous ?
La fiscalité.
Fiscalité ?
Ben, la fiscalité, dès lors que vous ne protégez pas un restaurant, des restaurants ou des artisans cuisiniers ou des artisans restaurateurs ou des artisans boulangers, charcutiers, ce que vous voulez, avec une fiscalité qui est avantageuse pour eux, vous perdrez et vous continuerez une industrialisation lente de nos métiers. C'est évident. Aujourd'hui, un restaurateur n'arrive plus à faire, qui fait du fait maison, n'arrive plus à faire de trésorerie. D'ailleurs, quand les maîtres restaurateurs ont obtenu un avantage fiscal, ils étaient très nombreux. Aujourd'hui, ils ont plus d'avantages fiscal. Ils sont très peu nombreux. Donc, il faut redonner à l'artisanat français des métiers de bouche cette capacité à pouvoir vivre de ça. Sinon, vous détruirez dans cette industrialisation qui est sans pitié, hein, elle a pas d'état d'âme, et elle détruira les diplômes. Elle détruira les centres de formation professionnelle et elle détruira les écoles hôtelières, parce qu'on n'en aura plus besoin à réchauffer un produit. Oui, et d'ailleurs, on voit les croissances fortes dans les métiers de la cuisine transformées sur des établissements aujourd'hui qui font la cuisine à votre place et qui vous livrent des produits que vous n'avez plus qu'à mettre dans l'assiette.
Toute dernière chose, il nous reste presque une minute. Au Japon, vous êtes toujours des restaurants au Japon ?
Oui, toujours. Oui.
C'est quoi le modèle japonais en gastronomie ? Parce que c'est un modèle qui compte. Regardez en France le succès des restos japonais.
Oui, alors le modèle des restaurants japonais, c'est qu'on a une fiscalité qui a su protéger le fait maison. et en même temps, qui n'était pas contre non plus l'industrialisation. Vous avez une forte industrialisation de la cuisine japonaise, enfin de la cuisine au Japon, qui n'est pas forcément japonaise d'ailleurs. Mais comme vous avez une accessibilité au bon, agréable à manger, agréable à payer, eh bien finalement, vous maintenez un artisanat. Et ça, c'est le modèle, parce que la fiscalité protège ceux qui font de leurs mains.
Très bien, merci Thierry Marx. J'espère que le service vous a plu ici.
Mais c'était un service à la carte.
Bien, un service à la carte, c'est parfait. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Jacques Borel à l'assaut de la gastronomie française. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.